Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Nous entamons la dernière demi-heure de cette émission au quotidien avec peut-être des sujets un petit peu plus légers, enfin du moins qui touchent un peu moins à la guerre, à la politique, à la collusion, à Magnota, à tout ça. Collision frontale, tiens, non pas collusion frontale, mais collision frontale, c'est dans le Soleil de ce matin. L'affrontement entre Netflix et le CRTC lors des audiences sur l'avenir de la télévision la semaine dernière ne pouvait mieux illustrer, ce serait mieux, l'ampleur du choc que provoque l'apparition d'un nouveau modèle de diffusion. Tout ne tourne pas autour de Netflix, mais l'entreprise est le porte-étendard du nouvel écosystème sur lequel le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a plus ou moins de contrôle. Les sautes d'humeur de Jean-Pierre Blais, le président du CRTC, lorsque Netflix et Google ont tous deux refusé de fournir des données sur leurs activités au Canada, était plus un signe de faiblesse que de force. On en a eu la confirmation lundi quand l'organisme de réglementation a annoncé qu'à défaut de recevoir les chiffres demandés, les interventions et les documents déposés par les deux entreprises américaines seraient tout simplement retirés du dossier. Comment, au juste, le CRTC pourra-t-il redéfinir le cadre réglementaire de ce secteur s'il ignore deux des plus gros joueurs du nouvel environnement dans lequel les Canadiens évoluent? On peut comprendre l'organisme de vouloir éviter une bataille juridique qu'il n'est pas sûr de remporter, mais dans ce cas, pourquoi avoir cherché l'affrontement? Il aurait mieux valu laisser la porte ouverte à la négociation plutôt que de bloquer ainsi toute issue. Je ne me souviens plus de son nom et ce n'est pas écrit sur ma feuille et c'est dans le Soleil. Je suis désolée, monsieur, vous que je lis assez régulièrement. Le refus par Netflix de soumettre ses données n'est pas pour autant acceptable. L'entreprise est un réseau de télévision, peut-être pas comme les autres, mais un réseau néanmoins qui produit ses propres émissions et diffuse du contenu d'autres producteurs. Elle-même se définit d'ailleurs à l'intention de ses actionnaires comme le principal réseau Internet de télévision au monde. Internet n'est pas un mot magique grâce auquel on peut échapper à toute forme de réglementation. Netflix compterait 4 millions d'abonnés au pays. On doit pouvoir s'assurer qu'une partie de l'argent dépensé par les Canadiens contribue à soutenir notre propre production. Stéphanie Gramont dans la presse s'exprime aussi sur Netflix et elle dit « Ne cherchez pas les films de Xavier Dolan sur Netflix, même les plus grands succès du box-office québécois comme Bon Cop, Bad Cop n'y sont pas. Voilà pourquoi je me suis désabonnée de ce système de vidéos sur demande. Je n'y trouvais jamais les films que j'avais envie d'écouter. Du contenu canadien, il n'y en a pratiquement pas. Du contenu québécois, encore moins. » Pourtant, l'entreprise américaine est devenue un poids lourd de la télé au Canada, mais elle refuse de suivre nos règles du jeu. Depuis quelques jours, Netflix a entamé un bras de fer avec le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui a tenu une audience publique sur l'avenir de la télévision au début du mois de septembre. L'opportunité de soumettre les fournisseurs de vidéos sur l'Internet à certaines règles, notamment sur le financement du contenu canadien, était au cœur des réflexions. C'est dans ce contexte que le CRTC a demandé à Netflix et Google de lui fournir des statistiques. Nombre d'usagers canadiens, croissance des revenus publicitaires envisagés, taille des investissements en production canadienne, etc. Mais les deux entreprises ont refusé net. En fait, l'entreprise américaine prétend qu'elle n'est pas soumise à la juridiction du CRTC puisqu'elle n'a aucune présence physique au Canada. Arrogante, dites-vous? Qu'en est-il au juste? Le web relève-t-il du CRTC? Cela ne fait pas de doute, répond Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal. Une entreprise qui propose des émissions en public canadien, que ce soit Netflix ou TouTV, tombe sous la définition d'une entreprise de radiodiffusion telle qu'elle est consignée dans la loi. Il est vrai que les nouveaux médias bénéficient d'une exemption complète des règles du CRTC depuis 1999, ce qui leur a laissé beaucoup de temps pour grandir sans encadrement, mais elles n'en demeurent pas moins sous l'autorité du CRTC. Que ces fournisseurs n'aient pas de présence physique au Canada n'y change rien. Au Canada anglais, certains colportent aussi l'idée que le contenu diffusé sur le web ne peut pas être réglementé en vertu de la sacro-sainte liberté d'expression. C'est l'argument le plus délirant, s'exclame Maître Trudel. Quand j'entends ça, je tombe en bas de ma chaise. Il y a plein d'activités sur l'Internet qui sont réglementées. Ce n'est pas parce qu'on arrive sur l'Internet et que soudainement la réglementation ne s'applique plus. Par exemple, les agences de voyage en ligne comme Expedia sont soumises à la loi sur la protection du consommateur. Et les firmes de courtage sur Internet doivent se plier aux règles aussi des commissions des valeurs mobilières. Alors, pour quelles raisons les Netflix de ce monde continueraient-ils d'être exemptés des règles du CRTC? N'est-ce pas inéquitable pour les diffuseurs traditionnels, se demande Stéphanie Grammont. Si Ottawa veut participer au débat, il peut donner une directive claire au CRTC, comme la loi le lui permet. Mais évidemment, il devra alors expliquer comment il souhaite s'y prendre pour éviter l'érosion du contenu canadien à la télévision, ce qui est plus complexe que de lancer le mot « taxe » sur Twitter, comme on brandit un épouvantail pour faire peur au grand public.
Enfants que le monde leur appartient.
Ginano, Ginano.
On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre.
Bon, pour ces gens-là, ça a été une mauvaise puis une bonne nouvelle. D'abord, leur croisière est à l'eau pour les passagers du Vindam. Un bris mécanique a paralysé le bateau de croisière Vindam qui n'a pu quitter le port de Québec comme prévu hier matin, forçant l'annulation du voyage de ses 1300 passagers américains. Le paquebot de la compagnie Holland America Line a été remorqué jusqu'au quai 30 après un problème technique à l'hélice, selon les informations divulguées par le croisiériste hier. Incapable de quitter le quai 2 où il a jeté l'ancre vendredi et de reprendre le large, le bateau a été déplacé afin de permettre à d'autres navires d'y accoster. La saison des croisières suit son cours, a lancé la porte-parole de l'administration portuaire de Québec, Annick Métivier. Mais, bonne nouvelle, les passagers ont été remboursés par la Holland America Line, qui leur a également offert une croisière gratuite. Hein, finalement, c'est pas mal. Le navire était parti de Boston. Et ça, ça devait être assez extraordinaire. Victime d'un tragique accident de vélo qui l'a laissé sévèrement paralysé, Irving Kaplan a réservé une surprise de taille à sa fille Joanne le jour de son mariage. Au moment du traditionnel discours d'ouverture, l'homme s'est levé et puis il s'est avancé vers la table d'honneur à la stupéfaction de ses proches. Le Britannique de 54 ans a pu réaliser cet exploit grâce à une combinaison robotique motorisée. Dernier cri. Et là, on nous la présente dans le journal de Montréal. C'est vraiment robotique. Hein. C'est attaché par la ceinture et aux jambes aussi. Faut être quand même assez costaud pour supporter ça parce que rien que les blocs aux jambes, ça pèse 38 kilos. On nous dit dans le journal que il faut à tout prix mesurer presque 5 pieds et pas plus de 6 pieds 4. Il faut peser moins de 100 kilos, 220 livres et avoir un tour de hanche de 380 mm, donc de 15 pouces de tour de hanche. Je pense pas, moi ça me paraît un peu petit, 15 pouces de tour de hanche là. Mais en tout cas, peu importe, ça prend un physique spécial. Si vous êtes trop petit ou trop grand, vous ne pourrez pas en profiter. Ça prend aussi une bonne bourse parce que ça coûte quand même 180 000 $. Mais ça permet, il y a entre autres des microprocesseurs là-dedans, il y en a 29 dans cette tenue robotique qui permettent de calculer, d'enregistrer et de préprogrammer la séquence de mouvements désirés. Et puis, il y a aussi 10 actionneurs qui sont associés à des parties spécifiques du corps. Ces actionneurs ont un rôle similaire aux muscles humains sur un exosquelette et permettent à la machine d'effectuer différents mouvements. Évidemment, il y a des limitations pour ce genre d'appareil. On s'en doute, autre que le prix, c'est qu'il est conçu pour marcher sur des surfaces traditionnellement en milieu urbain. Il n'est par contre absolument pas prévu pour marcher soit sur des sols glissants, instables ou recouverts de débris tels que la neige, le sable, la glace, bien évidemment, l'herbe ou encore le gravier. Mais quand même, peut-être que d'ici une dizaine d'années, tous les tétraplégiques de la Terre pourront porter un appareil comme celui-ci pour se déplacer. Ce serait déjà formidable. L'avenir et la mémoire. La vieille maison est en bois, on vient de poser la première pierre pour la sauver. On, c'est Natasha Kwan, qui n'en peut plus de voir la maison d'enfance de Vigneault crouler tout doucement sous le poids des années. Les habitants du village sont gênés quand on leur demande, tout le monde le leur demande, « Elle est où la maison où a grandi Gilles Vigneault ? Elle est facile à trouver ? C'est la plus maganée. » C'est Mylène Moisan qui nous raconte cela dans Le Soleil de ce matin, ce 1er octobre 2014, avec une photo de cette vieille maison décrépite et de Gilles Vigneault qui est juste devant. Alors la maison, c'est la beige qui fait dur, en clin de vinyle dont les bardeaux du toit s'effritent, dont les poteaux de la galerie sont en train de pourrir, celle qui s'effondrera, tôt ou tard, dans les herbes hautes. Natasha Kwan a décidé de sauver la maison, celle de l'oncle Claude aussi, de faire honneur aux poètes. Ils ne veulent pas une scène noire du gouvernement, les scènes noires se font rares. Ils ne veulent pas d'une autre volée de bois vert comme celle qu'ils ont reçue en mai 2013, quand Pauline Marois a annoncé une subvention de 750 000 dollars, flanquée de Vigneault qui était aux oiseaux. Le chanteur a déchanté depuis. Il y a 4 mois, Vigneault et les gens de Natasha Kwan ont officiellement renoncé au denier public en disant que c'était beaucoup trop compliqué. Ils ont baissé les bras. Voilà qu'ils se retroussent les manches. Mercredi passé, Guillaume Hubermont, agent culturel à Natasha Kwan, Bernard Roy, chanteur, prof à l'Université Laval, Macaquin par alliance, et Nathalie Ray, DG de la Fondation communautaire du Grand Québec, ont signé l'acte de naissance du fonds Natasha Kwan pour la préservation de la source. Le nom ne parle pas de la maison de Gilles Vigneault, c'est voulu, c'est plus que ça. Il n'est pas question de laisser tomber ces maisons-là. Ce serait laisser tomber notre mémoire et ça va au-delà de Natasha Kwan, m'explique Bernard. La Côte-Nord, c'est un pays dans le pays. C'est une terre de courage et de résistance. Dans une couple de semaines, la campagne officielle sera lancée. Des gens connus, moins connus et pas connus du tout parleront de Natasha Kwan, de Vigneault, de la mémoire qui se fait rare comme les scènes noires. L'artiste, encore écorché, se taira. Ils diront qu'on peut faire de belles choses sans l'aide de l'État, même au bout du monde. Comme faire un musée, plutôt un centre d'interprétation sur la vie sur la Côte-Nord dans les années 30, bien avant que la 138 ne s'y rende. Natasha Kwan au temps de Vigneault, enfant, au pays de Jack Monoloy. Grosso modo, la nouvelle mouture du projet tourne autour de 500 000 dollars, la moitié de ce qu'avait prévu le gouvernement marois pour retaper la maison d'enfance de Vigneault, celle de son oncle et 3 autres petits bâtiments. Les subventions, ça venait avec une foule de normes. Ça faisait que finalement, il n'y a pas un sou qui allait à la région. Non, on engagera du local. Bernard vient de Québec où il passe l'hiver. Quand il est question de Natasha Kwan où il vit l'été, il parle au « nous ». Notez, il passe l'hiver à Québec. Il vit à Natasha Kwan. Quand il est revenu dans le sud, il y a quelques semaines, il a emprunté la Grande Allée. Il a vu les gros panneaux plantés sur le bord du chemin. Le patrimoine, c'est capital. Il s'est dit que si c'est vrai pour Québec, ça l'est aussi pour un village de 264 habitants. Il est de ceux qui pensent que c'est Natasha Kwan qui a fait Vigneault, que le célèbre poète n'aurait pas chanté Charlebourg de la même façon. L'homme a puisé à son village comme Fred Pellerin à Saint-Élie de Caxton. De son coin de pays, Vigneault a chanté ceci « J'y reviens comme on va boire une eau qu'il faut protéger. L'avenir, c'est ma mémoire sur laquelle il a neigé. » Il neigera encore, écrit pour conclure Mylène Moisan, il neigera encore cet hiver sur la maison dans laquelle il a grandi. Elle sera encore un peu plus maganée au printemps. On peut bien l'abandonner, laisser le temps défaire son œuvre. Le monde continuera de tourner. Les quelques milliers de touristes qui iront jusqu'au bout de la 138 n'y verront rien. Au-delà de la mémoire, nous avons un devoir d'avenir.
Jack Monoloy était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Où
tous les boulots de la rivière à Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche, elle était belle, Jack Monaloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monaloy, disait le vent, la Mariouche pour un blanc. Avait écrit au couteau de chasse le nom de sa belle sur les boulots. Un jour on a suivi leurs traces, on les a vus au bord de l'eau. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche elle était belle, Jack Monaloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monaloy, disait le vent, la Mariouche pour un blanc. Jack Monaloy est à sa peine, la Mariouche est au couvent, et la rivière coule à peine un peu plus lentement qu'avant. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent, la Mariouche elle était belle, Jack Monaloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monaloy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc. Jack Monaloy, Dieu et son âme, en plein soleil dimanche matin, en canon blanc du haut de la dame, il a sauté dans son destin. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots en mémoire, et leur écorce est toute noire, depuis que Monaloy a sacré le camp. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monaloy, disait le vent, la Mariouche pour un blanc. La Mariouche est au village, Jack Monaloy est au fond de l'eau, à voir flatter sur les nuages, et les canaux et les couillots. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche elle était belle, Jack Monaloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monaloy, disait le vent, la Mariouche et pour un blanc.
Gilles Vigneault, bien sûr, et son Jack Monaloy à la une du Cahier des Arts de la Presse. Énorme photo de Monsieur Dolan qui présente en ce moment même à Paris son Mommy. Le visage de Xavier Dolan, et nous dit Émilie Côté, tapisse les kiosques à journaux de Paris sur la une des magazines. Hier, c'est en chair et en os que le petit génie québécois présentait Mommy en avant-première au cinéma MK2 Bibliothèque en présence de Suzanne Clément, Antoine-Olivier Pilon et Anne Dorval. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, était même présent pour l'occasion. « J'espère que vous serez à la hauteur de ce qui s'est passé au mois de mai dernier », a-t-il lancé au public. Dans son discours, M. Frémaux a comparé les réalisations prolifiques de Xavier Dolan pour son jeune âge à celles de Michelangelo Antonioni. Il a également envoyé une pointe à Jean-Luc Godard. C'est choquant d'avoir lu dans Le Monde ce que Godard a dit, à savoir qu'il ne connaît pas Dolan et que le jeune cinéaste qui a remporté ex aequo avec lui le prix du jury à Cannes a fait un film ancien. Ce sont les termes de Monsieur Godard. Au terme de la projection du film, les spectateurs interviewés par la presse étaient sous le charme. « Grave !» a lancé Sophie Morello, notre voisine de siège. « Les personnages sont fous, c'est un film d'acteurs. Tout est à sa place, émouvant, drôle, fou, surprenant », a renchéri son amie Jessica Eraghi, qui a été invitée parce qu'elle travaille pour Dolce & Gabbana, qui a habillé Xavier Dolan hier soir. Les deux copines ont apprécié les sous-titres et le format de pellicule carré. « Les comédiens nous bouffent ! » a-t-elle dit. Lors de la mise en vente des billets de l'avant-première, les serveurs informatiques n'ont pas suffi. À la demande, Mommy sort en France le 8 octobre sur plus de 300 écrans grâce au distributeur Diafana. Dolan a fait récemment la une des magazines premières, Un Rock et Têtu. Le prodige québécois a fait un irrésistible psychodrame familial, dixit Télérama. Les médias français adorent le personnage de Dolan, libre et turbulent, bouillonnant, passionné, gonflé, dit l'Express ce matin en ce qui concerne la première du film de Dolan. En art visuel, autoportrait de Van Gogh ou Van Gogh, si vous préférez, à Montréal. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a présenté hier l'œuvre autoportrait de Vincent Van Gogh qui fera partie de l'exposition de Van Gogh à Kandinsky. C'est de l'impressionnisme à l'expressionnisme 1900-1914 qui débutera le 11 octobre. La petite toile peinte à l'huile vers 1887 est la propriété de Wadsworth Atheneum Museum of Art of Hartford au Connecticut. Un restaurateur de peinture de ce musée, Alan Kozanovich, l'a authentifié hier devant les médias à l'aide d'une petite lampe. Il a expliqué qu'on peut percevoir en transparence les contours d'une femme que le peintre avait dessinée dans un premier temps. Insatisfait, il avait retourné la toile pour réaliser cet autoportrait, vraisemblablement à l'aide d'un miroir.
J'aime ta grand-mère. Je veux un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par en arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me taire. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai j'aime ta grand-mère.
Les trois accords symphoniques, magnifique folie, écrit Philippe Papineau. Les trois accords symphoniques, ben oui, pourquoi pas. Après tout, il y a eu à plusieurs reprises dans leurs chansons des cordes, des envolées, des cuivres. Alors pourquoi ne pas doubler leur titre d'un orchestre et hop, c'est dans la poche. Mais non, ça aurait été trop facile. Mardi soir, à la Maison Symphonique, le Quatuor Rock et l'OSM, sous la direction de Simon Leclerc, nous avaient réservé un plat de choix au menu du jour, un concert à deux volets, à la fois hilarant et sérieusement travaillé. D'entrée de jeu, le chef Leclerc a averti la foule. Les trois accords ne seraient même pas de la première partie, qui a été présentée comme un mélange d'adaptations instrumentales et de pièces, chantées par le baryton Patrick Mallette et la soprano Roselyne Lambert. Légère inquiétude, soudainement. Et puis non. Ce fut une première heure magnifique, débile, d'une grande beauté comme d'une libératrice folie, un peu à l'image des chansons du groupe. On aurait dit une pièce de variété tellement la foule riait. Question de contre-emploi, certainement. Fallait entendre l'orchestre s'amuser façon James Horner plus que Beethoven, les violons en beurrer juste assez sur Ton avion, les cuivres presque chanter sur Grand champion. Et surtout, surtout, il fallait voir Lambert et Mallette, parfaits avec ses mimiques, livrer caméra vidéo ou Yuri comme si c'était un opéra de Verdi. Parfait décalage. On peut dire qu'on ne réentendra pas souvent des chanteurs classiques dire « métaphore alimentaire » et « voudrais-tu manger du thon ?» ni entendre « Saskatchewan » en russe, « hawaïenne » en allemand et « dans mon corps » en italien. Toujours chanté par notre baryton et notre soprano. Imaginez. À l'entracte, on en était à se dire qu'il faudrait que la bande du chanteur Simon Proulx soit drôlement bonne pour accoter tout ça. Le deuxième concept s'est avéré un peu moins puissant, mais quand même très habile. Les trois accords ont offert leur dernier disque, « J'aime ta grand-mère », en formule tragédie romantique grecque symphonique, dont l'histoire, séparée en chapitres, était présentée par un narrateur pompeux. Bah, rendu là. Pourquoi pas, écrit Philippe Papineau. Monté sur scène sans instrument, le groupe n'a servi que de voix à l'orchestre. C'est surtout Proulx et Alexandre Parr qui chantaient, nerveusement au début, mais avec aplomb plus tard, un peu étouffés par l'orchestre par moments. Quand même, un autre moment de délire, une autre magnifique folie. En plus, ils remettent ça mercredi soir, ce soir donc. We'll be right back. Et pour finir, quelques mots de sport. Yves Boisvert revient sur le marathon de Montréal qui s'est déroulé dimanche dernier. Le marathon qui s'est enfin mis à niveau, écrit-il. Après les déconvenues de l'édition 2013, les gens de Competitor Group n'avaient plus le droit à l'erreur et on dirait bien qu'ils ont reçu le message. Le marathon de Montréal, cette fois, s'est très bien déroulé. Avec 36 000 inscriptions aux quatre distances, ce n'était pas gagné d'avance. La croissance constante, mais maintenant Montréal au niveau d'organisations comme Ottawa, Toronto ou Vancouver. L'amateurisme et la soif du profit qui ont gâché une partie de la fête l'an dernier n'étaient plus tolérables. On a corrigé le tir, plutôt très bien. L'arrivée par le métro Longueuil sur le pont Jacques-Cartier était beaucoup plus fluide. Détail non négligeable, il y avait une quantité record de toilettes chimiques à l'entrée du pont. C'est à croire qu'on les avait toutes réquisitionnées entre Rouen et Baie-Comeau. Aux dernières nouvelles, il n'a manqué ni de liquide ni de verre pour les servir, comme ce fut le cas en 2013, même si le premier point de ravitaillement n'était qu'après le quatrième kilomètre. D'une entreprise à but lucratif qui a acheté la marque du Marathon de Montréal et qui prétend être un leader dans le domaine des courses populaires, on s'attend à rien de moins. L'organisation a recommencé à donner des bourses. Si le niveau de l'élite a nettement baissé, du moins, on respecte minimalement les coureurs de haut niveau. Quand on compare le niveau des coureurs d'élite à Ottawa ou à Toronto, Montréal fait terriblement provincial, mais au moins, on ne rit plus de l'élite locale. Comme l'an dernier, où un vainqueur touchait plus à la course du Festival de la Barbotte de Sorel qu'à Montréal. Certains ont trouvé que le rock dans divers groupes était trop anglais, d'autres auraient voulu des toilettes sur le pont, des parents trouvent toujours l'arrivée de la course de 1 km chaotique, mais bon, on ne rapporte aucun enfant disparu et rien n'est parfait. Disons donc que le groupe a rempli l'essentiel de son mandat, faire courir en sécurité et dans le plaisir le plus grand nombre de personnes jamais enregistrées à une course locale. Peut-on rêver maintenant que la ville de Montréal nous offre un parcours digne de la ville? Oui. Le départ suspendu entre ciel et fleuve, le pont empli presque au complet qui vibre sous les pas caoutchoutés des coureurs, ce n'est jamais banal. Les îles ont leur charme, le vieux Montréal aussi, mais le reste du parcours manque d'attrait et comporte trop de difficultés. La place Jacques-Cartier, Côte-Berry, les très nombreux virages sur le plateau et dans l'Est. Pendant ce temps à Berlin, nouveau record battu en 2h02.57. Waouh! Le Montréalais David Le Poro a réalisé le 9e temps jamais enregistré par un Québécois, 2h20. Oui, oh bah, hein, quand même. C'est déjà pas si mal. Voilà, c'est là-dessus que je vous abandonne en ce 1er octobre 2014. Quoique, si vous écoutez l'émission en reprise, ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire, mais si vous écoutez l'émission en direct, eh bien, je reste en studio et j'accueille Chantal Lamarre à l'émission Un livre découvert dans quelques minutes. Alors, à plus tard ou à demain.